Tick tock, tick tock, tick tock. Arthur à la technique, Nicolas à l'animation. Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. C'est avec plaisir que je vous retrouve ce soir en direct sur Radio Alpa 107.3 FM pour une quatrième émission du débat. Ce soir, nous débattrons du sujet « La France est-elle une démocratie défaillante ?» Sujet qui interpelle de nombreux et nombreux compatriotes. Depuis la crise du Covid, en passant par les gilets jaunes et les attaques terroristes de 2015, que n'ai-je entendu ? À commencer par ma petite maman que je salue bien fort. Mais quand même, la France, ça devient une dictature, on peut plus rien faire. Alors pour répondre à ma maman et à toutes celles et tous ceux qui affirment cela, cette émission leur servira peut-être à se dire qu'ils vont un peu loin dans leurs propos ou au contraire les confirmer dans leur point de vue. En conséquence, nous tenterons de répondre à notre problématique du soir en compagnie de mes invités que je remercie d'avance de leur présence. Mélina Elchoud, conseillère départementale de Sarthe et doctorante en droit. Bonsoir Madame Elchoud.
Bonsoir.
Maître Alain Pigeot, avocat inscrit au barreau du Mans, ancien conseiller municipal de la ville du Mans. Bonsoir Maître Pigeot.
Bonsoir.
Hélène Debost, conseillère départementale de Sarthe, ancienne adjointe à la jeunesse à la ville du Mans. Bonsoir Madame Debost.
Bonsoir.
Monsieur Nicolas.
Le coronavirus est mauvais pour la santé, il est aussi mauvais pour la démocratie. On s'en doutait, mais le rapport annuel de The Economist Intelligence Unit, le centre de recherche du magazine britannique du même nom, l'étaye avec des données chiffrées. Et au passage, la France passe de démocratie à part entière à démocratie défaillante. Il n'a fallu qu'une perte de quelques points pour changer de catégorie et porter un coup au prestige national d'un pays qui s'offre trop souvent en modèle au reste du monde. Comment en est-on arrivé là ? D'abord, un point sur la méthode. Ce classement annuel de la démocratie mondiale concerne 165 pays, classés en 4 types de régimes. La démocratie à part entière, avec la Norvège en tête, la démocratie défaillante, où la France cohabite avec plusieurs autres pays européens comme la Belgique ou l'Italie, mais aussi avec les États-Unis, les régimes hybrides et enfin les régimes autoritaires. Pour établir ce classement, 5 catégories de critères. Le processus électoral, le pluralisme, les libertés civiques, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique et la culture politique. Le classement 2020 porte évidemment la marque du coronavirus. C'est la plus mauvaise année pour la démocratie depuis que le Centre de recherche a lancé son index il y a 15 ans. Et le rapport attribue principalement la dégradation aux restrictions de liberté provoquées par la pandémie, mais pas seulement. Ainsi, la France oscille depuis plusieurs années entre les deux catégories démocratie à part entière ou défaillante. Ce qu'il montre qu'il n'y a pas que le coronavirus. On pourrait discuter à l'infini pour savoir si couvre-feu, confinement, fermeture de frontières et toutes les restrictions imposées pour lutter contre la pandémie sont des atteintes aux libertés. Pour évoquer cette question, nous aurons quatre sujets. La France est-elle encore une démocratie ? Second sujet, le quinquennat Macron a-t-il fait de la démocratie française un système défaillant ? Le populisme est-il une solution pour contribuer à améliorer le système démocratique français ? Et dernier sujet, quelles propositions pour améliorer le système démocratique en France ? Sur ce, nous allons lancer le débat avec nos invités. Merci à vous tous et toutes de nous écouter. Premier sujet, mesdames, messieurs, la France est-elle encore une démocratie ? Madame Elchoud.
Oui, je pense que vous l'avez déjà dit en fait dans la définition même au départ, c'est-à-dire que une démocratie défaillante, mais une démocratie quand même, une démocratie pour au moins trois aspects, c'est-à-dire qu'on fait participer le peuple aux décisions politiques, y compris par les élections nationales et locales, parce qu'on y sépare globalement les pouvoirs, mais on y reviendra, il y a des questions à se poser dessus, et puis enfin parce qu'on y garantit quand même des droits et des libertés, et qu'on peut saisir le juge quand on considère qu'aujourd'hui on méconnaît ses droits et ses libertés. Sur le côté défaillant, par contre, je pense que c'est sur les mêmes aspects, c'est-à-dire que les trois éléments, en fait, aujourd'hui, qui posent question, il me semble, c'est l'abstention sur la participation du peuple hein, aux élections, mais la politique n'est pas exempte, enfin n'est pas la seule en fait à vivre ça. Je pense que on le voit dans les participations dans les, pour les corps intermédiaires, les élections dans d'autres milieux, mais qui pose une question parce que du coup il y a un désintéressement, non pas forcément des questions politiques, mais du coup du fonctionnement du système politique tel qu'il est. Deuxième aspect, il me semble, c'est du coup l'importance du fait majoritaire, qui, il me semble, moi, rebat les cartes quand même de la séparation des pouvoirs et fait qu'entre le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, et notamment dans des périodes de crise, en fait, on n'a pas le même contrôle de pouvoir entre pouvoirs, mais on a davantage finalement cette opposition entre majorité et opposition politique. Et puis enfin, bah, le recours de plus en plus fréquent au juge, moi qui me pose beaucoup de questions, parce que ça signifie qu'en fait, sur des questions politiques, on ne va plus chercher les gens qui peuvent y répondre, mais on saisit un organe parce qu'on considère que la réponse, en effet, celle de nos représentants, elle n'est plus celle qui vaut. Et on le voit beaucoup avec la crise sanitaire, où il y a un recours qui explose hein, devant les juridictions, notamment administratives et constitutionnelles, pour des voilà, droits et libertés qui semblent méconnus.
Maître Pigeot, la France est-elle encore une démocratie ?
Alors, je réponds très clairement oui, c'est une démocratie. Hier, c'était une démocratie. Enfin, hier, pas avant 1789, bien évidemment, mais c'est une démocratie. Et c'est toujours une démocratie. Enfin, là, par rapport à ce que je viens d'entendre, démocratie défaillante, c'est plutôt une démocratie à améliorer. Je pense qu'il faut l'améliorer. Mais venir dire que c'est une démocratie défaillante, c'est un peu dangereux. Parce que je crois qu'on mélange plusieurs problèmes. Dans la présentation du sujet, vous avez dit démocratie défaillante parce qu'il y a un problème de liberté publique. Liberté publique, au moment de la Covid-19, c'est un autre problème. C'est un problème d'appréciation des libertés fondamentales de chacun des citoyens. C'est un problème à part. Je pense que ce soir, il faut que l'on examine, et je suis par contre d'accord sur certaines considérations qui viennent d'être dites, c'est une démocratie, il faut l'améliorer, et c'est de la responsabilité de la classe politique. Et tout à l'heure, je dirais qu'une partie de la défaillance, c'est peut-être paradoxalement les élus qui sont responsables de cette défaillance. Je n'en dis pas plus pour l'instant, on abordera les sujets les uns et les autres, mais c'est un très vaste sujet que vous voulez qu'on aborde ce soir.
Hélène de Bost, la France est-elle encore une démocratie ?
Mais comme mes deux prédécesseurs, puis je n'ai pas leur bagage en droit, donc je n'irai pas sur ce champ-là. Pour moi, plus que défaillante, c'est une démocratie qui est malade. La crise du coronavirus n'est pas la maladie, c'est un symptôme. En tout cas, les effets de cette crise sont un symptôme de la maladie qu'a notre démocratie. Mélina, Madame Hemsout, pardon, a donné quelques éléments. Je pense qu'il y en a d'autres. On pourrait s'attendre à ce que je fasse du haro sur le gouvernement actuel, mais ça n'a pas grand intérêt, je pense, parce que la situation est vraiment la continuité et le fruit d'une bonne dizaine, quinzaine d'années de dérives des élus, mais pas seulement des élus, des partis, aussi de la responsabilité des partis et de l'ensemble de l'appareil politique. Il se trouve qu'en effet, cette mandature-là a peut-être été l'aboutissement de quelque chose, l'aboutissement de cette maladie, en tout cas son aggravation, sa crise, je ne sais pas si c'est l'ultime, mais une crise grave où, par exemple, le pouvoir des parlementaires est réduit à néant. On a une Assemblée nationale, excusez-moi messieurs, mesdames les députés, de godillots qui n'ont aucun droit à voter contre les injonctions gouvernementales. Normalement, on est dans une démocratie parlementaire où il y a le gouvernement, le président, le premier ministre, un gouvernement et un parlement qui doit avoir la capacité parfois de pouvoir dire non, là ça ne va pas, là ça n'est pas ce que le peuple demande.
Vous avez fait tous un point sur les partis, les élus. La démocratie représentative est-elle défaillante en France ? Madame Elchoud, peut-être, ou Monsieur Pigeot, Madame de Bost.
Moi, je veux bien répondre. Je pense qu'il faut refaire un peu d'histoire. Nous sommes dans le cadre de la Ve République. Donc, nous avons une constitution qui a été faite en fonction des réactions à la IVe République, qui était une période d'instabilité, car nous étions dans un régime de parti, d'union à l'Assemblée nationale. On faisait les gouvernements et on les défaisait le lendemain matin. Donc du coup, le concepteur de la Ve République, c'est Michel Debré, ça a été une volonté d'affirmer un fait majoritaire. Donc le raisonnement qui a été tenu par les fondateurs de la Ve République, c'est de dire voilà, il y a un certain nombre de partis, mais concrètement, les partis nous gênent un peu pour gouverner. Il faut faire en sorte que l'on rentre dans une logique où nous allons dégager une majorité qui permettra à un gouvernement d'obéir et de gérer la France en fonction du programme du parti majoritaire. Et ça a bien marché, on peut faire des commentaires, mais quand on est avec deux partis politiques, allez, je vais dire LR, le PS, ça marche. Il y a deux partis, il y en a un qui gagne, le coup suivant c'est l'autre qui gagne, Et voilà, donc on a deux partis, on a une majorité, et normalement, ça peut aller. Ça peut aller. Mais aujourd'hui, on constate quoi ? Qu'il y a de nombreux partis, que ces partis ne s'entendent pas, qu'en France, nous n'avons pas la culture allemande, par exemple, de l'entente, du contrat de gouvernement. Quand je vois ce qui se passe en Allemagne, c'est une autre conception de la démocratie. Le PS négocie, enfin, je ne prends pas les termes allemands, mais le PS négocie avec les Verts négocient avec les libéraux. Est-ce qu'on peut imaginer ça en France ? Non. Donc, du coup, nous sommes dans, j'allais dire, une majorité qui devient un peu bloquante. Et je suis d'accord, le gouvernement impose ses décisions à l'Assemblée nationale. On voit rarement une Assemblée nationale désavouer le gouvernement parce que nous sommes dans un processus majoritaire. Et on pourrait parler aussi des conditions d'élection du président de la République. Mmh. Ce système où les deux qui arrivent en tête sont au second tour, eh bien, ça veut dire que Emmanuel Macron, je le reconnais volontiers, il a eu combien ? 25% des voix au premier tour. Du coup, il a été élu par combien de Français ? Tout ça, c'est un peu délicat. Le fait majoritaire et devient éminemment discutable. Et je pense, je le redis, que les élus, et je me mets dans cette catégorie puisque je l'ai été longtemps, nous sommes un peu défaillants dans la répercussion des doléances des citoyens. Il y a un certain conservatisme des élus.
Merci, Monsieur Pigeot, pour votre analyse. Je tiens à préciser, vous parlez de l'élection présidentielle. Mitterrand, enfin l'ancien président de la République, disait au premier tour, on élimine, au deuxième tour, on choisit. C'est aussi un fait de cette élection. Madame de Bost.
Je contemplais très bien ce que disait Monsieur Pigeot. En effet, un peu d'histoire. Mais quand Monsieur Pigeot disait jusqu'au LR, ça allait. Je pense que déjà au moment où on est au moment LR, on a déjà eu un rassemblement de beaucoup de choses qui participent à la création de cet ultra-fait majoritaire. Pendant un temps, il y avait un grand nombre de petits moyens partis, à droite comme à gauche. On avait l'UMP et le Parti Socialiste qui étaient les plus grands et qui étaient en capacité de faire des accords et des alliances pour gagner avec les écologistes, les communistes, les radicaux de gauche et compagnie, qui obligeaient chacun à faire des concessions, des compromis pour prendre en compte finalement beaucoup plus largement la population. Finalement, la création de LR aujourd'hui a tué à peu près toute diversité à droite. Quant à la gauche, pour les mêmes raisons, à force de vouloir buter les petits, eh ben ils ont tellement plus d'impact qu'ils ne sont plus assez représentatifs de ce qu'ils étaient censés représenter. On peut parler des communistes, mais moi je veux bien qu'on parle aussi de mes camarades écologistes sur ce qu'ils peuvent représenter ou mal représenter du peuple qu'ils sont censés représenter. L'aboutissement de toutes ces choses-là, qui sont normalement cette 5e République, en effet, elle a besoin d'une stabilité, mais elle a aussi besoin d'une respiration. La démocratie a besoin de respirer. Et quand on élimine toutes ces micro-oppositions qui permettent la vitalité et la respiration démocratique, ben cette respiration n'existe plus. Et elle arrive en 2017 à la création d'En Marche, qui finalement vient récupérer des gens des LR et du PS dont le souci n'est plus de représenter quelque chose ou de représenter quelqu'un, mais de parvenir et d'arriver à ce qu'on appelle le gouvernement et à des partis de gouvernement. Et on arrive, je pense, absolument au bout de ce système-là où il n'existe plus d'espace de respiration démocratique. Et quand il n'y a plus de respiration démocratique dans le débat, la respiration démocratique, elle va se lever d'une autre façon. C'est ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes. Et s'il n'y a pas une écoute des politiques, des partis sur tout ça, on va vers des heures bien désagréables, je le crains.
Merci Madame de Bost. Madame Elchoud.
Oui, pour compléter, évidemment que la Ve République, elle est d'abord le fruit, vous l'avez bien dit, des illusions et puis des dysfonctionnements du régime précédent. La difficulté, il me semble, c'est qu'on cherche l'efficacité de la démocratie. Et cette efficacité, on l'a recherchée par le fait majoritaire notamment. Et donc, globalement, pouvoir aller rapidement. En fait, aujourd'hui, l'efficacité, c'est la rapidité. Hein, souvent, c'est ce qui conduit d'ailleurs, y compris dans un état d'urgence, à avoir recours régulièrement aux ordonnances et trouver un tas de dispositifs et d'outils qui nous permettent d'aller vite dans la réponse politique. Sauf que, il me semble que l'efficacité de la démocratie, elle passe non pas finalement seulement par la rapidité, mais par l'acceptabilité des décisions. Et en fait, une démocratie efficace, c'est une démocratie dans laquelle les décisions prises par les représentants sont mieux acceptées par les citoyens. Et il me semble aujourd'hui que quand on ne cherche pas le consensus dans les assemblées locales et nationales ou par le dialogue social, on passe à côté de cet autre aspect de l'efficacité démocratique.
Merci Madame Elchoud. Donc nous aurons bien compris que nos invités sont d'accord pour dire que nous sommes encore en démocratie et qu'elle est largement perfectible. Et nous aurons l'occasion de revenir sur les solutions qu'ils ont à proposer. Second sujet, nous savons qu'au mois d'avril, nous aurons une présidentielle et peut-être est-il temps de faire le bilan sur certaines questions de ce quinquennat. Donc la question que je vais vous poser, chers invités, le quinquennat Macron a-t-il fait de la démocratie française un système défaillant ? Qui souhaite intervenir ? Maître Pigeot, peut-être.
Ah ben, moi, je veux bien intervenir, mais donc, comme je suis plutôt pro-Macron, ma réponse, vous la devinez. Moi, je considère qu'Emmanuel Macron n'a pas mis la démocratie française en danger plus qu'un autre président de la République. Il y a une évolution, il y a des problèmes qui apparaissent, il y a des problèmes d'écoute des citoyens. Il a essayé, il n'a pas, je le reconnais bien volontiers, toujours réussi. Il a proposé d'ailleurs une modification de la Constitution qui s'est retrouvée bloquée pour des calculs politiciens. Donc il faut être aussi réaliste aujourd'hui et faire évoluer la Constitution. Est-ce que tous les partis politiques sont prêts à jouer le jeu d'une manière loyale en disant on met de côté nos querelles et on se met autour d'une table pour faire évoluer cette Constitution ? Je suis obligé de constater que ça a été bloqué du fait du Sénat, avec un certain nombre d'arrière-pensées que je comprends dans un jeu politicien. Il y a toujours des problèmes non-dits, il y a des non-dits, beaucoup de non-dits. Alors aujourd'hui, sans prendre Emmanuel Macron, je serais tenté de dire qu'effectivement, les Gilets jaunes, ça a été l'illustration assez violente. Et quand je dis violence, c'est une violence même, pas seulement, je ne fais pas référence aux manifestations, mais ça a été une violence sociale. Cette violence sociale, il faut qu'on la prenne en compte. Et il faut faire attention, parce qu'un jour, elle peut dégénérer. Et aujourd'hui, je le dis, même si je soutiens Emmanuel Macron, je considère que, à mon avis, le pouvoir est encore un peu aveugle et un peu sourd à ce qui se passe dans la rue. Je le dis, vu de mon expérience de conseiller municipal et communautaire, c'est peu de choses. Mais soyons attentifs à ce qui se dit, que les partis politiques soient des relais, que l'on passe les idées et qu'à ce moment-là, tous les élus républicains, et nous sommes ce soir des élus républicains ou anciens élus pour moi, nous partageons les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, eh bien faisons notre boulot correctement. Ce sera déjà une grande victoire.
Je vais me faire l'avocat du diable, mais lors de la crise des Gilets jaunes, notamment, le président Macron et des députés, notamment en Sarthe, hein, Madame Fontenelle, a participé à beaucoup de débats. Donc finalement, est-ce qu'il n'a pas essayé, par ce biais-là, de créer une espèce de démocratie participative avec des cahiers de doléances et tout ça ? Votre réponse, Madame Elchoud ?
La difficulté, c'est que la démocratie participative, le point de départ, évidemment, c'est de susciter des lieux et des moments de dialogue. Mais la deuxième étape, c'est de les concrétiser, en fait, de concrétiser les besoins, les attentes en des propositions. Et en fait, c'est là où je pense qu'il y a eu un manque, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a déjà un sentiment de ne pas être à l'écoute des besoins des citoyens, qu'on essaye de réparer ce sentiment-là, du coup, en créant notamment ce grand débat en France, et qu'on ne traduit pas ça concrètement dans des propositions qui semblent répondre aux attentes, eh ben, le mal-être, en fait, il continue. Donc, pour répondre à la question initiale, évidemment que le malaise démocratique, il ne date pas du quinquennat Macron, il était déjà présent avant. La difficulté, c'est que les crises sociales, économiques et sanitaires auxquelles on fait face depuis plusieurs années ont exacerbé, par contre, je pense, ce malaise. Et la poursuite des états d'urgence, y compris là, la prolongation de l'état d'urgence jusqu'en juillet 2022, est encore une goutte d'eau qui va contribuer à faire déborder le vase à la fin.
D'ailleurs, petite question, à l'Assemblée nationale, quelle a été la position du groupe Parti Socialiste, dont je n'ai plus le nom, vous m'excuserez, sur justement cette prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'en juillet 2022 ?
Bien, plusieurs parlementaires, en tout cas, ont voté contre, du coup, la prolongation de cet état d'urgence, parce que la difficulté, si vous regardez bien, hein, sur les 6 dernières années, en gros, on a passé la moitié du temps en état d'urgence, qu'il soit lié au terrorisme ou du coup à la crise sanitaire. Et la difficulté qu'on a avec ça, c'est-à-dire qu'on laisse entendre que le droit commun ne répond plus aux difficultés, aux enjeux qu'on rencontre. Et en fait, ça fragilise, il me semble, notre système et puis la démocratie in fine, parce que l'état d'urgence, il conduit à rompre, pour des soucis d'efficacité, on y revient, hein, le dialogue, du coup la recherche de consensus, le contrôle des parlementaires et des juges, etc.
Pour rebondir sur ce que vous dites, d'ailleurs, les mesures de confinement ont été prises par décret, c'est-à-dire par l'exécutif. Madame de Bost, une réponse à la question, le quinquennat Macron a-t-il fait de la démocratie française un système défaillant ?
Alors, encore une fois, d'une part, je ne suis pas pour hyper personnaliser les choses, c'est pas Monsieur Macron tout seul. Tout ça, c'est vraiment l'aboutissement, comme je le disais tout à l'heure, de 15 années de choses qui ont dérapé. Mais il en est peut-être un peu le...
La quintessence.
Peut-être qu'il a participé en effet à accélérer cette maladie. Par tout ce qui a été dit, mais par exemple, regardons en effet la multiplication des décrets par ordonnance, la poursuite sans débat de l'état d'urgence, et comment réagit, on est normalement dans une démocratie représentative. Je vérifiais là le nombre de présents aujourd'hui à l'Assemblée pour voter sur cette poursuite-là. 135 pour, 125 contre, 316 députés manquants. 316 députés manquants pour prendre des décisions aussi importantes que ça. C'est que quelque chose est profondément malade dans la démocratie. Vraiment. Donc après, la question... on y a un peu répondu tout à l'heure, hein, mais finalement, le fait de passer systématiquement par-dessus les corps intermédiaires, de les mépriser. Les Gilets jaunes, on crée une convention citoyenne, et puis une fois qu'on met en place la loi qui devrait en découler, on ne prend en compte que même pas 5% des propositions qui ont été élaborées laborieusement, pour le coup, par des gens tirés au hasard, qui se sont impliqués dedans. Mais tout ça, non seulement ce n'est pas respectueux de la démocratie, ce n'est pas respectueux de l'image que devrait donner le pouvoir, et ça met les gens en colère, et à raison. Donc quelque part, il y a dans la façon d'exercer le pouvoir, pas simplement de M. Macron, mais de ce qu'ils ont créé, quelque chose qui est peut-être encore plus méprisant que ce qu'on avait pu connaître dans les gouvernements précédents, même la mise en scène de son arrivée au pouvoir et de sa façon d'exercer le pouvoir aggrave et exacerbe, je pense, les choses qui vont déjà mal dans une société qui n'a jamais connu un niveau d'inégalité aussi fort depuis 1830, dans une société où la médecine va de plus en plus mal, l'éducation va de plus en plus mal, et où au lieu d'aller vers des solutions où on va mettre plus de solidarité, plus d'humain, et on va essayer de trouver les solutions pour réparer cette société en crise, finalement, on enlève des libertés et on rigidifie encore et on éloigne le pouvoir des gens. C'est peut-être exactement l'inverse qu'il faudrait faire.
Madame Elchoudou, c'est-y intervenir.
Oui, juste sur le rejet finalement à la fin de la classe politique, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit, sur l'absence des parlementaires à l'Assemblée nationale. La difficulté, il me semble aujourd'hui, je le vois avec les étudiants en droit, c'est qu'on a une vraie méconnaissance du fonctionnement de nos institutions aussi. Et quand on voit que la majorité de la loi... elle se crée, elle se fabrique, elle se négocie et elle se décide en commission. Et bien en fait, on comprend, quand on sait ça, pourquoi les gens ne sont pas, pour une partie, en séance plénière, parce que les jeux sont faits. Quand vous êtes dans l'opposition et que vous savez qu'en commission, vous n'avez pas obtenu le dépôt de vos amendements, l'adoption de vos amendements par la majorité, vous savez que le jeu... du coup, des majorités et des oppositions, fait que vous aurez le même nombre, finalement, et la même...
Le rapport de la commission
le même rapport
à l'Assemblée
de force,
plénière.
Exactement.
Oui.
Et c'est ce qui explique, d'ailleurs, que des parlementaires, en fait, ne vont pas jusqu'à la séance plénière, parce que, de toute façon, les jeux sont faits. Donc, quand on a cet élément en tête, on comprend aussi davantage que tout s'est déjà joué avant, c'est juste que les médias sont là à la séance plénière, et que les médias constatent l'absence des députés, qui étaient, par ailleurs, mobilisés avant. Et ça, du coup, ça, c'est important de le rappeler parce que je pense que ça casse quand même, du coup, un cliché.
Mais même, enfin, c'est des débats qu'on pourrait avoir au département. Quand là, je refuse de voter en commission au département. Il y a une plénière, les votes se font en plénière. En commission, on est censé en commission pouvoir demander des évolutions et attendre éventuellement que les questions qu'on a posées soient réglées au moment où on arrive à la plénière. Donc ce n'est pas en commission que je vote. Moi, je vote en plénière quand tout a été pris en compte. Et même ça, c'est un dévoiement finalement du principe démocratique. Parce que on peut être absent aux commissions, on peut... Il n'est pas normal que ce soit au moment où les élus doivent répondre devant le peuple de leurs décisions qu'ils ne soient pas présents. Parce que même le système organisé comme ça, soit on l'explique mieux, soit on le change. Parce que ça ne va pas, en fait. Ce n'est pas correct.
Monsieur Pigeot, oui,
les derniers propos que je viens d'entendre, je les trouve un petit peu partisans pour la raison suivante, c'est que je ne vais pas faire de commentaires sur le fonctionnement du département. Il y a une majorité, il y a une opposition. Bon, l'opposition vient de se plaindre de ne pas être assez entendue, et, y compris dans les sessions plénières. Peut-être, mais là je vais le dire, de 1995 à 2020, dans le cadre de la ville du Mans, je n'ai jamais eu le sentiment que l'on ait pu faire beaucoup de propositions face aux décisions qui étaient prises par la majorité. Donc si vous voulez, je crois que fondamentalement, tous les partis, tous les élus ont un peu la même réaction quand ils arrivent au pouvoir. Ils bloquent. La majorité va gouverner, l'opposition circuler, il n'y a rien à voir, vous nous embêtez. C'est dommage, parce que moi je ne suis pas un tenant de la démocratie participative. Allez, je le dis, ça peut vous surprendre, et là je vais invoquer l'opinion de Jean-Claude Boulard qui plusieurs fois avait évoqué le sujet. Nous sommes dans une démocratie, nous procédons à des élections. Ces élections ont pour effet de désigner nos représentants dans un certain nombre d'instances. C'est aux élus de faire le boulot. Si ça ne plaît pas, on les bat le coup suivant. Ils ne sont pas réélus. La démocratie participative, je prends au hasard des gens dans la rue, je trouve une solution. Oui, mais il faut être réaliste. Si demain on me demande que l'essence soit gratuite, je suis sûr que je vais trouver beaucoup de gens qui vont me dire « il faut que l'essence soit gratuite ». Oui, mais est-ce que c'est possible? C'est pas sûr.
Merci pour votre réponse, Monsieur Pigeot. Nous allons nous quitter pour une petite plage musicale, le temps de bien ingurgiter toutes les nombreuses informations que nous ont données nos invités, et on se retrouve dans quelques minutes.
Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
On devrait vous nettoyer au Karcher. Le jour où le peuple se réveille, vous allez prendre cher. On a le sentiment qu'aller voter, c'est choisir par lequel d'entre vous on veut se faire entuber. Républicain ou PS, rangez vos promesses dans vos sacs Kermès. Vous n'avez jamais connu la précarité, vous vivez à l'écart de nos réalités. La rue le pense, je le mets en musique, et pour ceux qui l'ignorent encore, je le rends public. Je ne soutiens aucun parti, je marche plus dans vos combines. Vos programmes électoraux ne sont que des comptines. On prend les mêmes et on recommence. Les mêmes promesses, les mêmes mensonges, les mêmes tapes dans la caisse, les mêmes plonges, les mêmes sons dans la hesse. Les mêmes manges, les mêmes menteurs, trafiquent les mêmes comptes, les mêmes commis au service des mêmes pontes. Les mêmes fils de pauvres sont incarcérés, les mêmes fils de riches sont formés pour régner. En attendant qu'un homme du peuple émerge, c'est rare de trouver un élu avec un casier vierge. Ma haine du système est toujours intacte, lequel d'entre eux peut jeter la pierre à Cahuzac? Claude Guéant, Balkany, Jean-François Copé, Philippe Bernard, Harlem Désir, Alain Juppé. Tous ceux que j'ai cités ont été condamnés, ce sont les mecs de cité qui me traitent comme des damnés. Vous étiez choqués par le groupe Tandem, vous faites la même à la France, mais jusqu'à ce qu'elle saigne, jusqu'à ce qu'elle coule, comme la Grèce ou l'Italie, vous avez meurtri le pays jusqu'à l'agonie. Cumul des mandats jusqu'où vous irez? Est-ce le cumul des salaires que vous désirez? Comme toute la France d'en bas, je crois plus aux politiciens. Je continue le combat, je crois au réveil citoyen. Pour changer les choses, il faut le vouloir. Vous n'avez pas de cause profonde si ce n'est le pouvoir. Vous faites de la politique sans conviction. Parfois vous en faites même pour éviter la prison. En costume cravate sont les vrais voyous. Vous ne croyez plus en rien, plus personne croit en vous. Y'a qu'à observer les taux d'abstention. Faut pas trop prendre les gens pour des cons, attention. Sentez-vous le vent tourner comme vos vestes. Entre vous et la rue, y'a plus que les CRS. À bout de souffle, votre système est dans un cul-de-sac. À essayer de se débattre comme un cul-de-chat. Vous êtes élu pour un truc, vous ne le faites pas plus. Vous faites l'inverse, en plus ça ne vous gêne pas. Et si le peuple a l'idée de se rebeller, vous disposez d'une armée de flics bien dressée et scellée. Le dialogue social, j'ai dans un cercle. Les keufs tirent au flashball, tu peux y perdre un œil. Vous faites monter le sentiment anti-policier. Usez de la police comme d'une armée privatisée.
Le politique, qu'il soit femme ou homme, pour moi en tous les cas, et pour l'instant, peut-être que demain j'aurai changé d'avis, il ne sert plus à rien. C'est un prestataire de service. Ces putains de dettes là qui emmerdent tout le monde, qui mettent les peuples à plat, qui les mettent à genoux et ainsi de suite, on n'arrive pas à les éliminer. Comme vous les politiques, vous n'arrivez pas à les faire éliminer. C'est putain de bête, parce que la banque elle est plus forte que vous.
Tout le monde le sait, c'est une évidence. Vous êtes complètement soumis à la finance. Vous votez les lois que les riches ordonnent. Après le 49-3, plus rien ne m'étonne. On travaille plus mais on gagne moins. On attend juste le printemps européen. On cotise pour des retraites qu'on ne verra peut-être jamais. Tout l'argent qu'on fait rentrer, vous nous le reprenez. Chaque fin du mois à découvert. On a l'impression d'être esclaves du système bancaire. Les plus riches connaissent le jeu, jouissent de niches fiscales. Les petites PME croulent sous les charges sociales.
De retour sur l'antenne de Radio Alpa 107.3 FM pour l'émission Le Débat. Nous venons d'évoquer deux sujets, nous allons en évoquer un troisième qui sera « Le populisme est-il une solution pour contribuer à améliorer le système démocratique français ?» Je vais poser la question à mes invités en premier lieu. Le populisme, quelle est votre définition, mesdames, messieurs ? Madame Elchoud, pour commencer peut-être ?
Ben, moi je vois le populisme comme un mouvement quand même qui consiste globalement à critiquer le système et critiquer ses représentants. Et ce qui me gêne dans la majorité des discours populistes, c'est qu'ils se résument à du tous pourris, qui conduisent globalement à tout jeter, à mettre tout le monde dans le même sac, et puis en fait à faire porter une responsabilité importante sur donc, l'ensemble de la classe politique. Et ce qui du coup me manque dans les discours populistes, c'est la nuance, tout simplement dans les constats, et puis dans les solutions, c'est la recherche d'une conciliation, en fait, trouver des solutions qui rassemblent, sans être dans la dichotomie, il y a les bons, il y a les mauvais, il y a les pour, il y a les contre. Et il me semble dans ce cadre-là que le populisme n'est pas du tout une réponse à la crise démocratique.
Madame de Bost.
Alors, j'apprécie beaucoup la nuance qui vient d'être mise sur le fait que ça pouvait manquer de nuances et du coup, et surtout de recherche de solutions. Par contre, si on regarde la définition du populisme, discours politique s'adressant aux classes populaires fondées sur la critique du système et de ses représentants. Si on écoute ce que nous avons dit tous les trois depuis une demi-heure maintenant, s'il y a bien une chose sur laquelle on s'accorde, c'est que le fonctionnement du système actuel est défaillant, que les représentations politiques ne sont pas à la hauteur, qu'il y a un vrai problème de représentation à l'intérieur des partis, dans la façon d'organiser finalement le pouvoir politique, d'écouter, et il y a une défaillance du politique à écouter les revendications du peuple qu'il est censé représenter. Donc, je trouve qu'il est bien défini, bien difficile de répondre à cette question, surtout qu'on utilise systématiquement le mot populisme, qui pourrait être un beau mot, mais il est finalement dévoyé parce que les personnes qui s'en revendiquent ou alors qu'on accuse de populisme, c'est toujours parce qu'on essaye de dire que finalement ils ne sont là que pour attiser les haines et pas pour trouver des solutions. Ben moi, je fais un autre pari, c'est que peut-être cette vraie définition du populisme, qui est d'avoir une analyse des défaillances du système, une écoute sincère du peuple et la recherche de vraies solutions, ben ce populisme-là, pour moi, il pourrait être un début de solution.
Merci Madame de Bost. Monsieur Pigeot.
Alors, je vais vous dire, moi, je trouve que le populisme, le mot est plutôt un beau mot, étymologiquement. Sur le plan sémantique, c'est plutôt bien le populisme. C'est l'expression du peuple, notamment, et je le reconnais volontiers, plutôt au niveau des catégories sociales plutôt défavorisées. Donc le populisme en absolu, c'est parfait. C'est permettre aux faibles de s'exprimer pour que l'on puisse écouter leurs doléances, leurs demandes, et que l'on puisse faire avancer notre République. Ça, c'est la théorie. Par contre, le problème, c'est que petit à petit, ce mot populisme a changé de contenu. Et donc aujourd'hui, c'est un mot qui est utilisé comme une injure pour certains ou comme une qualité pour d'autres. Regardons les candidats aujourd'hui à la présidentielle. Qui est populiste ? Moi, je le dis très clairement, Zemmour est populiste. Je vais le dire, je trouve que Mélenchon l'est de temps en temps. D'accord ? Mais c'est différent, il y a une nuance dans mes propos. Marine Le Pen est populiste. Alors du coup, quand on voit l'utilisation de ce concept, moi je dis, halte là, il y a un danger. Et je reviens à ma position. Nous avons une démocratie, je vais rappeler une citation, la démocratie c'est le pire des régimes, je n'en connais pas de meilleur.
Bon. De Churchill.
Et donc du coup, c'est Churchill qui a dit ça. Moi je fais mienne cette phrase, la démocratie, il faut l'améliorer, il faut la faire vivre. Ne partons pas trop dans ce débat sur le populisme. Je vous le dis, c'est pas pour chanter votre émission,
mais je pense
que c'est une piste qui est trop délicate dans l'utilisation de ce mot. Il faudrait qu'il y ait une expression populaire de l'ensemble des citoyens et de l'ensemble des gens qui votent. Et il faudrait que tout le monde vote. Ça, c'est un autre sujet.
Alors, ça, on y viendra dans le quatrième sujet, notamment les propositions pour améliorer le système démocratique en France. Mais moi, je reviens à ma question. Donc, vous avez tenté chacune et chacun une définition du populisme, mais je vous ramène à la question. Le populisme peut-il contribuer à améliorer le système démocratique français? Dans votre définition personnelle, Madame de Bost?
Eh bien, en reprenant moi ce que je vous ai mis comme définition, donc en partant du fait que le mot au départ est beau, même si je rejoins M. Pigeot sur le fait qu'en effet les personnes qu'on nomme, qu'on flèche aujourd'hui, et je les partage, hein, qui se revendiquent ou qui sont nommées comme populistes, sont difficilement des solutions, parce qu'ils ne cherchent pas de solutions, mais à créer des boucs émissaires ou à faire cramer les choses. Il me semble qu'en effet, si on en prend la définition propre, une écoute attentive des aspirations du peuple, le fait d'aller chercher les citoyens pour les amener aux urnes et faire en sorte qu'il n'y ait plus d'oubliés des urnes et qu'on s'adresse réellement à tout le monde, qu'on ose parler de radicalité, qu'on ose parler des vrais sujets, qu'on ose parler des choix qu'il y a à faire, qu'on arrête la novlangue, qu'on arrête les langues d'acajou qui font que qu'on soit de droite ou de gauche, finalement le discours est le même et qu'on a l'impression d'entendre un mauvais concours d'élocution. Je pense que, et d'ailleurs j'ai travaillé pendant un an hein, pour une femme qui a essayé de porter ça à la présidentielle, elle s'appelle Sandrine Rousseau, et ce qu'elle a réussi à développer, l'espoir qu'elle a semé, et je le vois, ça fait 3 semaines que le deuxième tour est passé, on a encore des gens qui nous rejoignent, alors qu'elle a perdu. Il y a quelque chose qui s'est levé, et les gens qui nous rejoignent ne sont pas des gens qui potentiellement pourraient aller voir Zemmour ou Le Pen. Peut-être certains, en effet, rejoindront peut-être Mélenchon, parce qu'en effet, ils vont peut-être difficilement trouver leur voie dans le reste, mais c'est dommage, parce qu'il y a vraiment une autre façon, il y a une façon constructive de pouvoir parler au peuple, pouvoir parler du peuple, pour pouvoir parler avec le peuple, et il est dommage finalement de créer d'un beau mot un gros mot, alors que ce qu'on a oublié, c'est la belle idée qui était derrière.
Je vais me permettre de reformuler finalement ma question après vos interventions. Y a-t-il un bon populisme et un mauvais populisme, Madame Elchoud?
Eh ben, si le populisme, du coup, on le conçoit comme une expression populaire d'abord, en effet, il y a un bon populisme. Et je pense que derrière l'ensemble des contestations sociales, ce qu'il y a de positif dans les contestations sociales, quelles qu'elles soient, qu'on voit depuis un certain temps, c'est qu'il y a quand même chez des gens encore cet esprit critique. Et il est essentiel chez nos concitoyens, l'esprit critique, de pas tout accepter, de pas tout subir, etc. C'est ce qui améliore à la fin, il me semble, nos politiques publiques. Donc cet esprit critique-là et l'expression de cet esprit critique-là, il est bon. Par contre, quand on tombe, donc alors là c'est pareil, j'emploie un autre mot qui mériterait d'être défini, mais quand on tombe dans le complotisme, et en fait toujours dans une perspective où il n'y a plus de nuances, et où finalement on met tout le monde dans le même sac, il me semble que là ce n'est plus du coup un outil d'amélioration de la démocratie, et en tout cas si la démocratie on la conçoit aussi comme le fait de faire ensemble, de se rassembler, de trouver des consensus dans la population et globalement de maintenir la cohésion sociale en fait de notre nation.
Monsieur Pigeot, une intervention, y a-t-il un bon populisme ou un mauvais populisme? Alors, qui pourrait améliorer la démocratie?
J'allais dire, il y a la théorie et la pratique. En théorie je veux bien vous répondre oui, en pratique je vous réponds non. Je pense que la piste d'explorer le populisme tel qu'il est vécu aujourd'hui me paraît une piste un peu vaine. Et je rappelle qu'il y a quand même des grands dictateurs qui, au début de leur carrière politique, étaient populistes. Il faut aussi faire très attention, parce que le populisme, le jour où un élu considère qu'il représente le peuple, il va probablement avoir tendance à vouloir garder le pouvoir. Et donc du coup, confère l'histoire du XXe siècle dans les années 1930-1940. Le populisme est apparu dans certains pays. Alors donc du coup, moi je pense qu'il faut que l'on revienne à une république qui est une démocratie avec des règles claires, des élus responsables et peut-être aussi simplifier notre vie politique. Et ça j'aurais aimé qu'on aborde ce soir, je vous fais une suggestion, c'est que c'est incompréhensible. Même de temps en temps pour les élus, je vais faire une confidence. Quand on vote quelque chose au Mans, à Le Mans Métropole ou au département, quelles sont les compétences précises de chacune des collectivités? On ne le sait même pas. Bon, du coup, ça devient complètement confus, c'est incompréhensible. J'ai tenu un bureau de vote pour les départementales régionales. C'était impressionnant le nombre de gens qui venaient en disant « je vote ». Oui, mais aujourd'hui, il y a 2 votes. Ah oui, il y a 2 votes. Oui, mais je voudrais voter pour le même. Oui, mais d'accord, mais il va quand même falloir tenir compte des deux collectivités pour lesquelles vous votez. Oh oui, mais j'y comprends rien. Je vais à la machine, j'appuie sur le bouton, j'ai voté. C'est consternant, mais c'est triste en même temps. C'est triste de voir que les gens entre la région, le département, la structure intercommunale, la mairie, ils s'y retrouvent pas. Alors quand vous rajoutez les députés, les sénateurs, le président, le gouvernement, le premier ministre, les ministres, ils se disent « mais quelle est cette usine à gaz ?» Et c'est là où on a le sentiment de ne plus être entendu.
Une réponse très courte de Madame Elchoud.
Oui, quand je regarde les populistes polonais, les populistes hongrois ou les populistes tunisiens et l'état de la démocratie aujourd'hui dans ces pays-là, je pense qu'on a une partie de la réponse qui est du coup que le populisme n'est pas une solution à la crise démocratique aujourd'hui.
Merci Madame Elchoud. Nous allons passer au prochain sujet. Pour terminer notre débat, je vais demander à mes invités quelles propositions formulez-vous pour améliorer le système démocratique en France ? Madame de Bost, peut-être avez-vous déjà des propositions ? Vous avez évoqué Madame Rousseau tout à l'heure, j'imagine que vous aviez dans votre programme quelques petites solutions à nous donner. Peut-être pas clé en main, mais des grandes lignes.
J'en ai fait pas le bottin tout prêt pour les solutions, mais en effet simplifier l'organisation démocratique, comme le disait Monsieur Pigeot, me semble indispensable. Quand même les élus ne savent pas toujours quelles sont les compétences des collectivités pour lesquelles ils sont élus, on est devant un épais problème et un petit sujet. Donc simplifier d'une part le temps des mandats, la superposition des... Moi je suis pas forcément pour faire disparaître par exemple, la question n'est pas là, c'est que chacun sache ce que chacun fait et que ce soit simple. Voilà. Dire que c'est un problème d'éducation, il y a un moment, c'est quand même les élus ne savent pas, c'est pas qu'un problème d'éducation, c'est un problème de plaisir à complexifier les choses. Donc simplifier, il me semble qu'en effet, comme je l'ai dit, hein, cette 5e République est à bout de souffle et elle est malade. Il y a un besoin de rénovation démocratique, il y a un besoin de nouveau souffle démocratique, de remettre du parlementaire dans cette démocratie, de lui remettre son poids et de re-réfléchir à ces équilibres-là. Ça me semble indispensable. Besoin aussi de réfléchir. Alors, moi, le principe qu'on ait fait, comme M. Boulard le disait souvent, en effet, qu'on était, était élu pour être élu, et puis c'est comme ça, et que d'ailleurs, c'était une responsabilité, et je suis d'accord avec lui, parce qu'il est bien facile, une fois qu'on est élu, de se défausser et dire après c'est la faute des autres. Par contre, être élu pendant 6 ans et puis après 6 ans faire le contraire de ce pour lequel on a été élu, ne pas respecter un tiers des engagements sur lesquels on a été élu et qui jamais aucun moment de sanction dans la collectivité pour laquelle on a été élu et le travail pour lequel on a été fait, ça me semble un problème aussi. Donc réfléchir aussi à des moments de retour vers les citoyens pour que soit évaluée l'action publique à mi-parcours, mais intelligent, que ce soit pas du... c'est pas Hunger Games, c'est pas on garde ou on tue, mais pour éviter un effet trop fort du dégagisme, qui peut être un des autres effets du manque de respiration démocratique, il faut créer ces espaces où les citoyens et les élus reviennent les uns vers les autres. On l'avait proposé d'ailleurs lors des élections municipales en 2019, trouver une façon en effet de revenir devant ceux qui vous ont choisi pour faire un bilan et voir est-ce que c'est bien, est-ce qu'on est sur la bonne route. Ça me semble déjà des pistes.
Monsieur Pigeot.
Oui, donc il faut faire en sorte effectivement que notre démocratie respire. Alors il y a une piste qui avait été évoquée, qui est régulièrement évoquée, c'est la proportionnelle au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, je serais tenté de dire que je suis partisan de cette proportionnelle, en sachant qu'il faut quand même garder une possibilité de gouvernement, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on rentre dans une démocratie qui ne fasse que qu'on parle sans prendre de décision. Il faut prendre des décisions. Donc la proportionnelle peut être une solution. La simplification de toutes les strates, ça, ce serait bien. Mais la classe politique est toujours d'accord pour rajouter et jamais supprimer. Ça fait un peu plus d'élus, je suis d'accord. C'est dommage. Mais simplifier la proportionnelle, clarifier, expliquer. Et effectivement, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Ce serait bien que de temps en temps, l'élu soit obligé de donner un compte-rendu de son activité pour avoir un retour. Pas forcément pour qu'il soit fusillé en place publique, c'est pas ça. Mais au moins qu'il y ait une possibilité de dialogue. Donc là, il faut faire preuve. Allez, je vais le dire parce que ça va peut-être faire plaisir à mes deux interlocutrices. Un peu, il faudrait rentrer un peu plus dans le domaine de la parole, de la communication. Il y a un tout petit côté mai 68 qu'il faudrait réinventer, où de temps en temps, il faudrait tous discuter. Et honnêtement, je vais vous dire, vous souriez quand je dis ça, mais quand vous discutez tous, quand on est 150 dans une salle, de temps en temps sortent quelques idées qui ne sont ni de droite ni de gauche,
mais, de bon sens.
Mais qui sont des idées de bon sens. Et tout à fait entre nous, je le sais parce que je l'ai vu, dire qu'il y a de bonnes idées à droite parce qu'on est à droite, c'est pas bon. Dire qu'il n'y a que des bonnes idées à gauche parce qu'on est de gauche, c'est pas bon. Les bonnes idées, il faut les trouver tous ensemble.
Je partage. Mais,
merci Madame de Bosse pour cette courte intervention, Madame Elchoud.
Peut-être trois éléments, il me semble, d'amélioration. Le premier élément, ce serait sur le renforcement en fait des contre-pouvoirs, hein, parce qu'on en a quand même parlé, et puis de leurs moyens de contrôle. Quand je dis les contre-pouvoirs, ça passe dans une démocratie, il me semble, par l'amélioration de l'indépendance des médias, quand on voit aujourd'hui la concentration hein, dans la propriété des médias français. C'est faciliter toujours hein, le contrôle juridictionnel, notamment, et parlementaire des décisions hein, qui sont prises par le législateur ou par l'administration. Et puis, c'est renforcer, on l'a dit un peu tout à l'heure, mais les droits de l'opposition pour, du coup, nourrir ce dialogue permanent. Enfin, pour compléter, le dialogue permanent avec le citoyen, évidemment, il passe, vous l'avez bien dit tous les deux, d'une part par améliorer la participation aux élections, et je pense que ça passe quand même par une réforme des modalités de vote à un moment donné. On n'y touche pas depuis longtemps parce qu'on a peur, hein. On a connu le vote par correspondance, et puis on a eu de la fraude en Corse, et puis on ne veut plus en parler depuis 1975, mais je pense qu'aujourd'hui, ça nous aiderait, et y compris chez les jeunes, du coup, de faciliter la participation par la correspondance. Le vote électronique peut être discuté, la reconnaissance du vote blanc est évoquée, certains candidats à la présidentielle proposent de voter à 16 ans. Enfin, il y a des choses, en tout cas, à discuter pour favoriser cette participation et que l'abstention, qui est celle de négligence, n'existe plus. Je pense parce qu'elle est quand même très importante autour de nous. Et puis développer les procédures de démocratie directe quand même, parce qu'il me semble, c'est ce qu'on a un peu dit tout à l'heure, mais oui, on élit des représentants qui doivent agir pour nous. Néanmoins, je crois qu'au quotidien, il faut associer nos concitoyens aux prises de décision parce que ça les rend meilleurs. Et en dehors des périodes électorales, il y a un certain nombre de dispositifs. On a eu des conventions citoyennes, on a localement des conseils de quartier, etc. Il faut trouver le moyen d'écouter, mais de transformer les expressions citoyennes en des décisions concrètes derrière, parce que sinon, on ne change rien. Et je terminerai peut-être pour confirmer ce qui a été dit, en fait, sur la formation, c'est-à-dire formation au fonctionnement des institutions, et y compris par l'éducation civique et morale, alors que ça s'appelle plus comme ça à l'école. Mais quand je vois que la majorité des jeunes ont le sentiment de ne rien apprendre hein, de ce qu'est l'engagement, pas que politique, et de comment fonctionnent nos institutions, on ne peut pas nourrir derrière une participation forte, hein, y compris aux élections, mais à un certain nombre d'autres. Voilà. Parce que la démocratie, c'est un dialogue permanent, et l'enjeu, c'est quand même cette co-responsabilité. Ouais. Celle des élus, mais il faut que les gens saisissent quand même du pouvoir qui est le leur.
Alors, moi, je vais vous faire quelques propositions que j'entends souvent parmi les gens que je peux côtoyer. Mandat impératif, reconnaissance du vote blanc, vote obligatoire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Très courte réponse. On fait quoi avec ces éléments ?
Madame de Bast ? Moi, reconnaissance du vote blanc, je pense qu'en effet, ça me paraît une étape intéressante et importante.
Liée avec le vote obligatoire, Madame de Bast ?
Alors moi, sur le vote obligatoire, dans l'état actuel de la démocratie, je suis pas sûre que le vote obligatoire soit la bonne solution. Je pense qu'il faut en passer par des étapes réparatrices de la confiance avant d'aller vers la contrainte. Ça me semble indispensable. Ça peut être une étape à un moment, mais c'est pas l'étape pour maintenant, à mon sens.
Monsieur Pigeot,
je suis d'accord, le vote obligatoire, en France, on a un défaut, on rend obligatoire et on dit tout de suite, attention, il y aura une amende. Alors du coup, s'il y a une amende, on va faire les gros yeux et vous allez payer l'amende. C'est pas une bonne manière de présenter le problème. Je suis d'accord, il faut faire évoluer les modalités du vote. Et les modalités actuellement sont complètement dépassées, on le sait. Et personne ne veut véritablement se saisir du problème. Donc faire évoluer les modalités du vote, le rendre obligatoire peut-être un jour, mais certainement pas dans le cadre du code pénal. Voilà ce que je dis. Le vote blanc, oui, c'est très séduisant intellectuellement, mais là je parle sous le contrôle d'une juriste qui est à côté de moi. Comment tirer les conséquences du vote blanc ? Là, honnêtement, moi, quand j'entends dire « on tient compte du vote blanc », je dis « ok, on tient compte du vote blanc bah, ». Mais imaginons, alors, comment est-ce qu'on interprète le résultat?
Imaginons la situation, on a le vote blanc qui arrive, je prends une élection législative, le vote blanc arrive en tête, un président de la République qui est tout blanc et inexistant.
Il faut refaire l'élection, ça veut dire qu'elle n'a pas de valeur et qu'il y a eu un problème. Donc, il faut que tout le monde se repose des questions.
Alors, bon, c'est une piste de réflexion, mais bon, moi je trouve que il vaudrait mieux quand même que les partis politiques proposent des candidats ou des programmes qui fassent que les gens s'expriment sur ce. Je pense que le vote blanc est un peu une défaillance des partis.
C'est pas faux non
plus.
Donc
le vote blanc, là je suis prêt à revenir à une autre émission sur le vote blanc.
Avec grand plaisir, monsieur Pichot.
Et à ce moment-là, on va discuter des modalités du vote blanc, mais je suis pas persuadé qu'en une heure, on aura trouvé la solution. Quant au mandat impératif, moi je suis pas d'accord. Il faut permettre aux élus d'exercer une certaine intelligence et même d'exercer une intelligence. Un problème, le matin, je peux dire, tiens, la solution, c'est telle solution. Mon électeur va me dire, oui, là, du coup, vous avez un mandat impératif. Si le lendemain, je découvre que la solution peut être vue d'une autre manière, que c'est plus respectueux, admettons, des droits d'autres citoyens, il faut faire évoluer. Le débat qui a été évoqué tout à l'heure, Jadot Rousseau, est un débat intellectuellement passionnant. Deux conceptions de l'écologie, une conception plus politique au sens qu'on va rentrer dans une écologie plus douce parce qu'il faut conquérir le pouvoir avant d'appliquer l'écologie, une conception plus radicale qui a également, que je respecte, avec des idées qui sont probablement des idées du futur. Il y a plusieurs méthodes, mais faisons attention, le mandat impératif, ça ne sera pas tenu.
Je suis d'accord.
Merci Maître Pigeot, merci pour cette réflexion Madame Debost. Madame Elchoud.
Pour rebondir oui, sur le mandat impératif, je suis complètement contre cette idée. Je crois que dans la société actuelle, qui est déjà une société de l'instantanéité, en fait, ça conduira à ce qu'on a dit, c'est-à-dire forcer des prises de décision rapidement, avec des attentes impatientes, qui ne correspondent pas à la réalité des choses et de ce qu'on peut faire. Et puis, ça passionnera les débats et puis le lundi avec telle actualité on aura envie de mettre tout le monde par terre et puis le mardi de nouveau avec tel autre et je crois que ça voilà.
Alors pour simple réponse, le mandat impératif existe notamment en Californie où vous avez tous les deux ans la possibilité de révoquer un élu sur la base d'une participation de pétition. Bref, j'invite les gens à se renseigner sur ce concept. Merci, chers invités, Madame Debost, Madame Elchoud, Monsieur Pigeot, pour cette émission très intéressante. J'espère que nos auditrices et nos auditeurs auront apprécié l'ensemble des informations et de l'instruction qu'elle a permis pour se former à la démocratie.
Et j'espère que votre maman vous a écouté.
Bonjour, Madame Rousseau.
Parce que je salue votre maman qui nous a écouté.
Merci beaucoup, Monsieur Pigeot. Je remercie les auditrices, les auditeurs. Pas d'émission pendant les vacances. Il y aura rediffusion de l'émission et des émissions précédentes. Je passe la suite à Alex pour son émission La Carotte, émission de hip-hop de Radio Alpa. Bonne soirée, bonne continuation. Et je tiens à préciser, merci Arthur pour toutes les émissions. Merci pour toi et bon vent. Bonne soirée à vous. Au revoir.
Merci.
Bonne vacances.
Au revoir.
Au revoir.